Comme nous l'avons vu, le débat aujourd'hui presque séculaire autour de la méthode qu'il convient d'appliquer pour l'édition critique des textes médiévaux, pour l'établissement du texte, ce débat met en jeu, au-delà des questions purement techniques, l'idée que nous nous faisons du poète à partir de l'idée que nous nous faisons de la transmission des œuvres littéraires au Moyen Âge. Cette idée, naturellement, commandant le regard que nous portons sur les manuscrits et le traitement que nous leur appliquons. Et cette idée dépend elle-même de la conception de l'activité poétique et de l'œuvre du littéraire que nous prêtons au Moyen Âge. Donc tout dans ce débat, encore une fois, technique et théoriquement purement objectif, ce débat est sous-tendu par des interprétations et, au fond, la critique littéraire commande la philologie la plus stricte sans que celle-ci s'en aperçoive toujours. Si bien que la vieille question de l'anonymat ou de l'attribution des œuvres littéraires médiévales ressurgit dans ce débat, mais de façon soit dissimulée, soit décalée au regard des termes dans lesquels elle a été posée dès le début de la période où on s'est intéressé à cette littérature, dès la redécouverte de cette littérature. De façon décalée, disions-nous, parce que, je disais la dernière fois, la querelle se joue à front renversé. Joseph Bédier lui-même tient le poème pour l'expression du génie individuel d'un poète. Et nous en verrons bientôt l'illustration la plus illustre. Mais la méthode qu'il préconise pour l'établissement des textes, méthode qui vise dans son esprit à respecter le plus possible le manuscrit qui reflète le mieux ce génie particulier du poète, cette méthode a été défendue par certains de ses héritiers ou prétendus héritiers, non seulement en invoquant l'impossibilité pratique de retrouver le texte original voulu par le poète, mais encore au nom de l'erreur théorique que constituerait l'effort pour retrouver, à partir d'un texte médiéval tel qu'il nous a été transmis par les manuscrits, le poème original produit par un poète particulier. Et inversement, Karl Lachmann voyait dans sa méthode un moyen de constater le morcellement de la création poétique aux époques anciennes et l'éclatement du poème en pièces diverses tardivement assemblées, mais l'application de sa méthode est aujourd'hui souvent soutenue par la conviction qu'il est possible, sinon de reconstituer le texte d'origine, au moins de s'en approcher. La vieille question de l'attribution ou de l'anonymat de la littérature médiévale n'est donc pas obsolète, mais elle se pose aujourd'hui en des termes qui ne sont plus ceux du romantisme ou de la négation des idées romantiques. La question que nous posons aujourd'hui est plutôt: que dit le poème du poète? En dit-il quelque chose ou n'en dit-il rien? S'il se réfère à un nom, ce nom est-il dans son esprit le nom du poète? Et nous allons à présent poser ces questions aux chansons de gestes. Aux chansons de gestes, parce que, je le disais dès le début de ce cours, ce sont elles qui ont paru le plus caractéristiques de la poésie primitive, qui semblait être la poésie même du Moyen Âge. Ce sont elles qui ont d'abord paru le plus marquées par les caractères de l'anonymat comme manifestation d'une supposée création poétique collective et spontanée. Et c'est en conséquence à leur propos que le retour de balancier, si je puis dire, a été le plus fort et que s'est manifesté le démenti le plus radical à ces conceptions romantiques. Donc les chansons de gestes incarnaient aux yeux des romantiques la forme et le style de la poésie primitive telle qu'ils la représentaient. Des traits d'expression orale, des allusions à une interprétation devant un public large et socialement indifférencié. écouter une bonne chanson, c'est le début traditionnel des chansons de geste. Rassemblez-vous, faites silence, si vous ne me donnez pas un peu d'argent, je m'arrête et je continue pas, etc. Tous ces effets, à la fois d'oralité et de vente de la marchandise, que l'on trouve effectivement, mais que l'on trouve artificiellement, puisqu'on les trouve dans les manuscrits. Donc, ces traits d'expression orale. L'impression d'archaïsme et de simplicité qui a été interprétée comme une simplicité populaire de la forme des chansons de gestes. Les laisses mono-assonancées, vous savez, les laisses, c'est-à-dire ces strophes de longueur irrégulière, et chaque laisse distinguant de la précédente, par le changement d'assonance, mais l'assonance poursuivant tout au long de la laisse. Donc on a cet effet répétitif et monotone de ces vers qui se terminent tous de la même façon, et justement pas tous tout à fait de la même façon, puisque les plus anciennes chansons de geste sont assonancées et non pas rimées. Nous verrons, quand nous en regarderons des illustrations plus précises, quand nous verrons la façon dont différents poètes parlent d'eux-mêmes dans les chansons de geste, que Jean Baudel se vante, à juste titre, d'avoir composé une chanson rimée et non pas assonancée. Vous savez, l'assonance, dans la rime, c'est la dernière syllabe qui est identique d'un vers à l'autre, et dans l'assonance, c'est uniquement la coloration vocalique. C'est-à-dire que table rime avec cartable, c'est même une rime riche, mais table est en assonance avec salle, avec amphithéâtre, avec tout mot qui a une terminaison féminine et un vocalisme en A. Donc cette répétition à la fin de chaque vers de sonorités identiques, mais cependant pas parfaites, qui ajoutaient à cette impression de poésie populaire, enfin ou primitive, avec tous les guillemets qu'il faut, que vous voulez. Le style formulaire, caractéristique de la poésie épique, avec des sortes d'épithètes homériques, avec des hémistiches ou des vers entiers qui sont repris comme des facilités de création. Des phrases lapidaires moulées dans les limites du vers, un style paratactique, une répugnance à la subordination et aux phrases longues, à tout ce qui donne cet aspect martelé, saisissant au style des chansons de gestes, mais qui en fait l'apparente simplicité. La répétition de la psalmodie. Les chansons de gestes étaient chantées, hein, mais nous avons très peu de mélodies de chansons de gestes, probablement parce que cette mélodie était toujours à peu près la même et qu'elle était très simple. Donc, elle n'a pas été notée. Et on a un vers de chanson de geste noté, mais indirectement, dans une pièce de théâtre, etc., où on demande aux compagnons de chanter et ils chantent cette brève chanson de geste parodique et scatologique, n'est pas la chanson de Rimbert et d'Olivier. Et alors il y a Rimbert dit Olivier, dit Odigier, pardon, Rimbert dit Odigier, bouze vous dit, je vous dis bouze, hein, et alors là on a la mélodie, c'est un peu tout sensé, mais enfin bref, on peut voir que c'est une mélodie extrêmement simple, et cette mélodie était répétitive de vers en vers. Dans certaines chansons de gestes, nous en verrons des exemples, le vers final de la laisse est plus bref, marque une sorte de cadence. Alors là, il y avait une petite rupture de la monotonie, à la fois pour le vers et pour le rythme, mais c'était tout. Le ressac des laisses parallèles, c'est-à-dire ces laisses qui se succèdent en répétant à peu près la même chose. Il se produit quelque chose qui est raconté dans une laisse, mettons, à assonance et, et puis la laisse suivante redit la même chose dans une laisse à assonance A, et avec des variations infimes, des variations d'expression. Quelquefois, si le poète est doué, une variation de point de vue. Quelquefois, dans la seconde laisse, l'action va un tout petit peu plus loin que dans la première. Mais il y a tout de même ces chevauchements et non, cette impression de ce qu'on appelle une impression de ressac. Le fait que, au moins les premières, jusqu'à la mode de l'alexandrin, jusqu'à la création à la mode du vers de 12 pieds, les chansons de gestes sont composées en décasyllabes, mais ces décasyllabes ont toujours une césure asymétrique. Le décasyllabe à césure 5-5 est une invention moderne. C'est le conte de Lille, couronné de thym et de marjolaine, des elfes joyeux dansent sur la plaine. Bon, ça, c'est le conte de Lille. Mais dans les chansons de gestes, la césure est 4-6 ou 6-4. Karl Lireis, notre empereur Main, 7 ans tout plein, d'été en Espagne, 13 qu'en la mer, conquête, etc. Altagne, il y a de Castel qui est devant lui, Romagne, etc. Le début de la chanson de Roland. Ou quelquefois, donc ça c'est 4-6, quelquefois 6-4, là je n'ai pas en tête de chanson de geste même, mettons la chanson de toile de Gaillette et Horiour, le samedi au soir, faute la semaine, Gaillette et Horiour, Soror, Germaine, etc. Bon. Et main vont baigner à la fontaine. Ah, bon. Et donc, quand c'est répété pendant toute une chanson, donc une laisse qui dure, il y en a de brèves, d'une dizaine de vers, il y en a de 20 vers, 50 vers, dans les chansons de geste tardive, 150 vers. Hein, et puis, pendant les 4000, 6000, 10000 vers de la chanson de geste, on entend vers après vers ce piétinement et ce piétinement claudiquant ce vers dont la césure n'est pas à la moitié. 4, 6, 4, 6, ou 6, 4, 6, 4, 6, 4, et qui donne une impression d'âpreté. Tout cela, il faut l'imaginer, donc cette claudication âpre du décasyllabe à césure asymétrique, cette répétition de l'assonance, cette mélodie, mais extrêmement simple, plutôt une sorte de psalmodie répétée vers après vers, toujours identique, et on imagine bien que l'audition de ces poèmes ait créé une sorte de fascination, de vertige, presque d'hypnose. J'ai eu l'occasion d'entendre des enregistrements d'espèces de sermons rythmés dans des églises noires américaines. Eh bien, l'effet produit, enfin, me faisait penser, j'étais pas au XIIe siècle, mais à l'effet que pouvaient peut-être produire ces chansons de geste. Un rythme très marqué, des échos sonores, des effets rhétoriques fondés essentiellement sur la répétition et sur la symétrie. Et avec tout cela, l'ancrage, c'est un point que nous allons développer, dans un passé lointain. Donc, excusez-moi, là aussi, bon, j'ai dit trop, ça nous écarte, et je l'ai dit trop longuement, mais enfin, on comprend très bien que les chansons de gestes aient été vues d'emblée comme une poésie archaïque, populaire, primitive, fondamentale de des langues dans lesquelles on les trouve. Et en même temps, comme ces chansons de gestes ont une thématique guerrière et une thématique qui prête aussi au contresens ou au fond sens, quand la chanson de Roland dit « Franc de France » ou « France la douce », où la terre, cette belle expression qui est reprise par Aragon, la terre majeure, pour dire le pays. Et la terre majeure, c'est encore presque du latin, c'est terra maiorum, c'est la terre des ancêtres. On est loin, on se bat, on est en danger, reverrons-nous la terre majeure, serons-nous enterrés avec nos ancêtres. Et évidemment, donc, tout cela prêtait à une interprétation, en somme, nationale des chansons de geste, et au moment où une interprétation nationale en relation avec la langue dont elles offraient les premiers monuments poétiques. Et leur anonymat presque généralisé permettait à la pensée romantique d'y voir cette première poésie collective et spontanée où s'incarne le génie national de chaque peuple. Et au moment où la pensée nationale a relayé ou s'est développée sur le terreau romantique, eh bien, l'intérêt maintenu pour les chansons de gestes s'imposait, et pour des raisons dans la continuité. Alors, donc, les chansons de gestes focalisaient l'intérêt pour l'anonymat. Et on avait non seulement l'intérêt pour l'anonymat, mais on avait intérêt à ce qu'elles fussent anonymes, enfin, une sorte d'intérêt à la fois littéraire et idéologique, si je puis dire. Alors, ce champ de questionnement que le romantisme étendait à toutes les manifestations poétiques se trouvait, dans leur cas, circonscrit à une forme littéraire particulière qui n'offrait, en un sens, qu'un cas particulier de la question générale. Mais la question de l'auteur ou de l'absence de l'auteur a été très tôt mise en avant par la tournure que le débat sur les chansons de gestes a rapidement prise. Ce débat s'est centré sur leur origine. Il s'est centré comme tout naturellement sur l'origine des chansons de gestes parce que la question qui s'est posée d'abord, et là encore naturellement, la question inévitable, c'était celle de la relation qui lie ces poèmes dont les plus anciens, pour le français, ne remontent pas en deçà des dernières années du XIe siècle, la relation qui lie, et dont la plupart sont sensiblement plus récents, sinon en dehors de la chanson de Roland ou de la chanson de Guillaume, sont des poèmes du XIIe siècle, la fin du XIIe siècle, du XIIIe siècle. Et comme c'est un genre conservateur qui, contrairement au roman, qui, genre plus intellectualisé, a évolué avec la langue et avec les habitudes rhétoriques de la langue, si bien qu'au XIIe siècle, on a écrit des romans en prose, en vers, et puis dès le XIIIe siècle, sauf dans des isolats conservateurs comme l'Angleterre francophone, eh bien, le roman devient pour l'essentiel un roman en prose. Au contraire, la chanson de gestes reste identique à elle-même presque jusqu'à la fin du Moyen Âge. Ce qui montre d'ailleurs que dès le Moyen Âge, on avait le sentiment que c'était un genre dont la valeur, le prix, reposait en partie sur une forme d'archaïsme, puisqu'on a conservé, on a continué à les composer, ou une apparence d'archaïsme. Mais enfin, donc, je digresse constamment. C'était juste pour dire que les plus anciennes chansons de gestes ne remontent pas en deçà des dernières années du XIe siècle, mais que toutes les chansons de gestes, et que la plupart sont sensiblement plus récentes, mais que toutes les chansons de gestes se réfèrent, renvoient à des événements vieux, de deux ou trois siècles à la fin du XIe siècle, et beaucoup plus pour les chansons de gestes plus tardives, des événements dont ces chansons gardent une mémoire vague, une mémoire très déformée, mais une sorte de mémoire tout de même. Et de sorte que, alors vous voyez le lien, qu'est-ce qui s'est passé entre l'événement et la chanson? Et du coup, est-ce que la chanson que nous lisons, qui surgit soudain, vient du fond des âges et est une chanson essentiellement, si je puis dire, anonyme, à laquelle on ne peut, qu'on ne peut pas attribuer à quelqu'un. Ce serait un contresens littéraire et historique d'attribuer à un poète. Ou bien est-ce que c'est une sorte de résurgence consciente, délibérée, à un moment donné? Et là, il peut y avoir un nom du poète. Donc, c'est une question tellement importante. Une question tellement importante, que je devrais la garder pour une autre fois. Je n'ai jamais fait de cours vraiment sur les chansons de gestes. C'est un domaine que je ne maîtrise pas très bien. J'ai eu tort et il faudrait qu'avant ma retraite, je parle une fois des chansons de gestes. Mais du coup, j'aurais gâché les choses en parlant aujourd'hui. Mais enfin, tant pis. Alors, donc, je rappelle en quelques mots les termes du débat pour, qu'on comprenne de quelle façon la question du poète et de son nom y est nécessairement impliquée. Et je prends comme exemple, c'est pas nouveau, enfin, ça n'a rien de nouveau, c'est même pas nouveau dans la façon dont je le dis, parce que j'ai été amené au cours de ma vie, dans ce que j'ai dit et écrit, à l'expliquer. C'est un problème tellement fondamental, mais enfin bon, tant pis. Disons que ce sont des prolégomènes banals à la suite. Je prends l'exemple de la chanson de Roland, c'est l'exemple qui s'impose et qui a été le plus mis en avant. Et puis, la chanson de Roland, dans sa version la plus ancienne, est, encore une fois, avec la chanson de Guillaume, on pourrait d'ailleurs faire la démonstration avec la chanson de Guillaume, la chanson de geste la plus ancienne. Et la version la plus ancienne de la chanson de Roland, à nos yeux la plus saisissante, celle que l'on désigne quand on parle sans autre précision de la chanson de Roland, c'est la version que livre le fameux manuscrit Digby 23 de la bibliothèque bodléienne d'Oxford. C'est un manuscrit probablement du deuxième quart du XIIe siècle et donc un manuscrit très ancien pour un manuscrit littéraire français. Nous avons peu de manuscrits littéraires français du XIIe siècle. Et la première moitié du XIIe siècle, très, 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 très peu. Et nous avons celui-là. Alors, je dis la chanson, vous savez, il y a 5, 6, suivant qu'on rassemble les manuscrits qui se ressemblent ou qu'on les sépare, versions de la chanson de Roland. Et ces versions ont ceci de particulier, qu'elles racontent toutes la même histoire, que d'une certaine façon, c'est le même poème, il y a des vers ou des épisodes qu'on retrouve presque semblables d'une version à l'autre, mais qu'il n'y a pas un seul vers qui soit identique d'un manuscrit à l'autre. Enfin, peut-être entre V7 et Châteauroux qui sont très proches, mais enfin, d'une version à l'autre. Bon. Oui, là, il y en a. Mais d'une version à l'autre, il n'y a pas un seul vers identique. Et la longueur de la version varie du simple au plus du double. Donc, c'est à la fois le même poème et pas le même poème du tout, ce qui pose d'autres problèmes, comme vous l'imaginez bien, que nous allons effleurer. Alors, mais pour le moment, j'en suis à la chanson et à l'événement, et donc au plus ancien, à la plus ancienne version, celle d'Oxford. Cette version a été composée probablement vers 1100. Probablement pas beaucoup avant 1100, à cause d'un certain nombre d'indices, la langue du poème, certains détails qui peuvent renvoyer à la première croisade, donc prise de Jérusalem en 1098, mais ce n'est pas absolument sûr. La mention de tambours et de chameaux. Or, certains savaient que ça existait depuis avant, mais enfin, Tambour et Chameau avaient joué un grand rôle à la bataille de Zalaca en 1086 en Espagne, qui avait été perdue par les chrétiens contre les Maures d'Espagne parce que les armées chrétiennes avaient été effrayées par le son des tambours et par les chameaux. C'est pas de beaucoup postérieur à 1100 parce que la chanson, la version la chanson de Roland est extrêmement populaire dès les premières années du XIIe siècle. Mais ça non plus n'est pas une preuve absolue, parce qu'il pouvait y avoir une autre version, il pouvait y avoir autre chose, ce n'est pas forcément le poème d'Oxford qui était diffusé. Et puis il y a la date du manuscrit donc, qui donne un terminus antequem sûr. Encore, évidemment, les paléographes se sont disputés sur la date du manuscrit, mais il semble certain que le manuscrit n'est pas postérieur au deuxième quart du XIIe siècle et il peut même être des alentours de 1125-1130. Donc, la chanson a été composée vers 1100, mais l'événement qu'elle relate, la bataille de Roncevaux, s'est déroulé le 15 août 778. Nous verrons pourquoi on sait que c'est le 15 août. Et la question est, question là encore, je fais le malin en la posant, mais ça traîne dans tous les manuels, y compris dans le mien, et ça fait 150 ans qu'on se bat là-dessus, pas tout à fait, mais presque. La question est, que s'est-il passé pendant ces trois siècles? Comment cette bataille du 15 août 778 a-t-elle pu inspirer ce poème de 1100? Qu'y a-t-il entre la bataille et le poème? Et d'abord, alors vous me direz, ça n'a rien à voir, et si, vous allez voir que ça a à voir. Qu'est-ce qu'on sait de cette bataille? Évidemment, pour 778, on se reporte aux annales royales. Charlemagne était un souverain organisé qui organisait sa communication, comme on dirait aujourd'hui, et il faisait rédiger année après année les annales, donc des annales, c'est année après année, de son règne. Donc on se reporte aux annales royales pour 778. Et on voit que ces annales mentionnent une expédition de Charlemagne en Espagne à la demande de l'émir de Saragosse, c'est bien de Saragosse qu'il est question dans la chanson, le roi Marsile est le roi de Saragosse, mais cette expédition est victorieuse et les annales royales ne soufflent mot de la moindre défaite. Mais elles ont fait l'objet d'une seconde rédaction, environ 20 ans plus tard, donc encore du vivant de Charlemagne. Et dans cette seconde rédaction ajoute qu'au retour d'Espagne, beaucoup de Francs ont été tués dans une embuscade tendue par les Basques, qui habitaient donc les Pyrénées, qu'il fallait franchir, une embuscade des Basques qui ont pillé les bagages avant de s'enfuir. Voilà, on ne dit rien de plus, on ne nomme aucune victime. Donc, là, on est vers 800, 798, 800. 30 ans plus tard, vers 830, à ce moment-là, Charlemagne est mort depuis 15 ans. Eginhard écrit écrit sa fameuse Vita Caroli, sa vie de Charlemagne, qui est une source importante sur Charlemagne. Et Eginhard raconte que, au retour de son expédition victorieuse, en franchissant les Pyrénées, l'empereur, enfin, qui à l'époque était le roi, éprouva quelque peu la perfidie des Basques. Et il ajoute que, dans cette bataille furent tués le sénéchal Eginhard, E-G-I-H-A-R-D. Lui, c'est Eginhard, et le sénéchal, c'est Eginhard, avec deux G et pas deux N. Le sénéchal Eginhard, Anselme, comte du palais, et Roland, duc de la Marche de Bretagne, entre beaucoup d'autres. il se trouve que nous avons l'épitaphe du sénéchal Aiguillart. Et cette épitaphe nous dit qu'il est mort le 15 août 778. C'est comme ça que nous savons, nous supposons que la bataille a eu lieu le 15 août. Bon. Donc voilà ce que dit Aiguillart, qui nomme Roland, effectivement. Il nomme en dernier. Bon. Et puis, 10 ans plus tard, enfin, donc vers 840, il y a une Vita Ludovici Imperatoris, une vie de l'empereur Louis, donc on en est déjà à Louis le Pieux, écrite par un chroniqueur connu sous le nom de l'astronome Limousin. Et, mais l'astronome Limousin parle de cette bataille de Ronceau. Mais il dit ceci. « Ceux qui marchaient à l'arrière-garde de l'armée furent massacrés dans la montagne. Comme leurs noms sont bien connus, je me dispense de les redire. » C'est frustrant. Alors, c'est frustrant. C'est frustrant, mais c'est quand même instructif. Parce qu'on peut tirer tout de même des choses de ces témoignages. D'abord, et c'est ça peut-être qui est le plus remarquable, c'est que, en principe, à mesure que le temps passe, l'événement s'efface des mémoires. Et or, là, on en parle de plus en plus. D'abord, on n'en parle pas du tout, et puis à mesure que le temps passe, on le mentionne avec une insistance croissante, on le mentionne d'abord en passant, ensuite on dit « il y a eu beaucoup de morts », on cite les morts, et après on dit bah, « tout le monde connaît tellement ça que c'est plus la peine de le redire ». Au milieu du IXe siècle, tout le monde sait qu'il y a eu une grande bataille à Roncevaux et tout le monde sait qui est mort à Roncevaux. Bon, premier point. Deuxième point, Aiguillart nomme bien Roland, alors nous sommes contents. Il le nomme, mais il le nomme en dernier, après Aiguillart et Anselme. Et donc c'est à ses yeux le moins considérable de ces trois morts illustres. Et d'autre part, c'est le seul dont nous ne savons rien. Aiguillart nous est bien connu, nous avons même son épitaphe. Le comte du palais Anselme nous est connu d'autre part, nous savons que ce personnage existait. Roland, nous ne le connaissons pas du tout en dehors des mentions d'Aiguillart. Et puis en plus, cette mention n'est pas dans tous les manuscrits. Dans certains manuscrits, il y a Aiguillart et Anselme, mais pas Roland. De là à penser que des copistes ont dit c'est curieux, un peu plus tard, on dit c'est curieux, il y a Aiguillart, on ne parle pas de Roland. Et l'ont ajouté, il n'y a qu'un pas. D'autant plus que d'autres éléments peuvent le rendre tentant. On a cherché naturellement la trace de Roland. On a trouvé une monnaie à l'effigie de Rotlandus. Malheureusement, cette monnaie est postérieure à 778. Donc ça ne va pas, parce que notre Roland était mort en 778. Et puis, on a aussi, alors là, on a triomphé, on a, dans un manuscrit, une liste des fideles palatini, des fidèles palatins, c'est-à-dire l'entourage immédiat de Charlemagne. Et là, il y a Rotlandus. Il y a Rotlandus, mais ces noms sont copiés sur trois ou quatre colonnes, hein, sur la page, avec, mettons, je vais savoir, 10 noms par colonne. Et le nom de Roland est dans la première colonne, mais c'est le 11e, il a été rajouté, c'est la seule colonne qui en a 11. Enfin, rajouté. Donc, on peut supposer que quelqu'un, un jour, a tombé sur ce manuscrit, a dit comment, il n'y a pas Roland, pas, c'est une erreur, parmi et il l'a ajouté avec cette espèce de faux, de bonne foi, dont le Moyen-Âge est familier. Et troisième point qu'on peut remarquer, c'est que tous ces témoignages proches s'accordent à voir dans l'embuscade dire que c'est une embuscade et une embuscade des Basques et non pas des Sarrasins qui étaient allés combattre Charlemagne pour lesquels il était allé en Espagne. Donc, si maintenant nous revenons moi provisoirement à notre poème, à la chanson de Roland, la chanson de Roland confirme la célébrité croissante, et bizarrement croissante, de la bataille de Roncevaux. On n'en parle pas, puis on en parle un petit peu, puis on en parle plus, puis on en parle beaucoup, et à la fin, on lui consacre tout un poème, mais trois siècles après. Mais la chanson de Roland prendrait deux libertés avec l'histoire, en donnant à Roland une importance qu'il n'a jamais eue à supposer qu'il ait réellement existé, ce que ne garantissent encore une fois ni la liste des fidèles palatins où son nom a été probablement ajouté, ni la monnaie trop tardive à son effigie. Donc, la chanson de Roland accorderait à Roland une importance qu'il n'a jamais eue et substituerait les Sarrasins aux Basques. C'est l'armée des Sarrasins qu'affronte Roland. Bon. Mais si on se... raconte ça trop longtemps. Si on se tourne vers les historiens arabes, si on cherche ce que les historiens arabes disent de l'événement, eh bien, on trouve une version très différente. Alors, on la trouve évidemment chez un écrivain très tardif, un écrivain chroniqueur du XIIIe siècle, qui s'appelle Ibn al-Athir. Et selon Ibn al-Athir, Charlemagne serait venu en Espagne à la demande du gouverneur de Saragosse, Sulayman ben al-Arabi, qui était révolté contre le calife omeyyade de Cordoue. Mais le temps qu'il arrive, Sulayman ben al-Arabi se serait réconcilié avec le calife de Cordoue et aurait, enfin c'est la version d'Ibn al-Athir, aurait fermé les portes de Saragosse à Charlemagne. Charlemagne arrive pensant profiter de cette dissension pour occuper Saragosse avec et faire de son gouverneur son vassal, en quelque sorte. Il arrive, la ville lui est fermée. D'après Ibn al-Athir, Charlemagne a réussi à s'emparer de Sulayman ben al-Arabi. Il le fait prisonnier. Ce qui est confirmé par des sources côté latin. Et il serait reparti vers la France en l'emmenant prisonnier. Mais, et alors c'est là que l'histoire diverge, lors du passage du col de la Ibagnetta, c'est-à-dire à Roncevaux, les fils de Ben al-Arabi, sans doute appuyés par les Basques, auraient attaqué les Francs et délivré leur père. Donc la bataille de Roncevaux n'aurait pas été un simple accrochage avec des montagnards ayant pour seule ambition de piller les bagages, mais un combat contre les Sarrasins et, pour Charlemagne, un revers assez important. Et divers recoupements rendent cette version plausible. D'abord, elle s'accorde avec certains détails des annales latines qui mentionnent bien, par exemple, la capture de Sulayman ben al-Arabi, mais ne parlent plus du tout de lui ensuite. Et dans des circonstances où, d'après les événements qu'il relate, un tel otage aurait constitué un atout important dans les mains de Charlemagne. Si Charlemagne ne joue pas de cet atout, c'est qu'il ne l'a plus entre les mains. D'autre part, si cette version est vraie ou proche de la vérité, les témoignages de l'historiographie latine que j'ai énumérés reçoivent une signification nouvelle. Et on comprend à ce moment-là très bien cette popularité, si je puis dire, croissante de l'histoire. Les annales officielles, écrites à chaud l'année même, comme le nom d'annal l'indique, n'en disent rien parce que c'est une défaite et qu'on essaye sur le moment de la passer sous silence. Mais c'était une défaite tout de même importante, une défaite qui, parce qu'elle était importante pour d'autres raisons, à cause du prestige des morts, que sais-je, avait ou aura marqué les esprits. Tellement marqué les esprits qu'au fil des années, il devient impossible de ne pas en parler. Alors, on la mentionne du bout des lèvres. On en minimise l'importance. On dit, les Basques ont attaqué les bagages. Et puis on lâche un peu le morceau, et au prix d'incohérence qui laisse deviner un petit peu la vérité. Par exemple, si vraiment c'était un raid pillard contre les bagages. Les bagages sont à l'arrière-garde, effectivement, sont derrière. Que faisait parmi les bagages le sénéchal Aiguillart? Le sénéchal, c'était un personnage qui réunissait les fonctions de Premier ministre et de chef d'état-major. Et le comte palatin, le comte du palais Anselme, le comte du palais, c'était le commandant de la garde personnelle de Charlemagne. Donc sa place, c'était autour de, avec Charlemagne et pas avec les bagages. Non. S'ils ont trouvé la mort dans cette bataille, c'est que la bataille a engagé toute l'armée et ou que l'armée refluait dans de mauvaises conditions avec tout le monde mélangé, etc. Ça ne, ce n'est pas une version compatible avec les Basques qui suivent l'armée et qui, au moment favorable, prennent des mâles. Non. Alors, tout cela, évidemment, est du domaine, c'est de l'hypothèse. N'est-ce pas ? Mais si il y a du vrai ou une part de vrai dans la version Ibn al-Athir, n'est-ce pas ? Eh bien, cela voudrait dire que la longue mémoire qui, trois siècles après l'événement, se fait entendre dans le poème français, aurait raison contre l'histoire officielle, au moins touchant la nature de la bataille, parce que le reste, évidemment, est pure fiction. L'existence de Roland reste une énigme, l'existence historique, et la plupart des autres personnages, à commencer par Olivier, sont assurément légendaires. Bon. Mais, alors, avec tout ça, quelle forme a pu prendre cette longue mémoire ? Est-ce qu'elle n'est pas une vue de l'esprit ? Est-ce que cette mémoire, c'est... enfin, oui, quelle mémoire ? Est-ce qu'il y a eu des textes enfouis au fond de monastères et puis un jour, on les a retrouvés, on a fait un poème ? Est-ce qu'il y a eu une mémoire vivante pendant trois siècles qui, à un moment, s'incarne dans un poème ? Non. Et alors... Joseph Bédier ne croyait pas à cette mémoire vivante et il parlait du silence des siècles. Peut-on faire parler le... Il avait toujours l'art des formules. Il n'avait pas toujours raison, mais il avait l'art des formules. Est-ce qu'on peut faire parler le silence des siècles ? Est-ce qu'on peut découvrir la trace d'une légende de Roland antérieure à la chanson de Roland ? Est-ce qu'on peut même découvrir un poème ou les traces d'un poème antérieur au poème d'Oxford ? Alors, on a observé depuis longtemps que certains traits de la chanson de Roland d'Oxford sont trop archaïques pour la fin du XIe siècle. Par exemple, avant la bataille, de Roncevaux, lorsque Charlemagne confie l'arrière-garde à Roland, il lui remet solennellement son arc en signe de délégation de commandement. Or, à la fin du XIe siècle, l'arc est une arme de chasse ou une arme de piéton, enfin de fantassin, ce n'est plus un insigne de commandement. Au moment de la mort de Roland, la chanson dit qu'il y a des signes dans le ciel et qu'il y a une tempête effroyable qui frappe la France entière, de Besançon jusqu'au port de Vissan et jusqu'à Saint-Michel-du-Péril. Et les frontières de la France qui sont marquées ainsi, sont les frontières de la France carolingienne, d'après le découpage des petits-fils de Charlemagne, c'est la France de Charles le Simple, et ce n'est pas la France des premiers Capétiens. Et témoignage d'un autre ordre, le chroniqueur Guillaume de Malmesbury écrit qu'à la bataille de Hastings, donc 1066, la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, lorsque les Normands ayant pris pied sur le sol à Hastings ont affronté l'armée du roi Harold, un jongleur normand nommé Taillefer avait entonné la Cantilena Rolandi, donc la chanson de Roland, pour exciter les Normands au combat. Donc ce Taillefer s'est avancé devant les combattants et a commencé à chanter. Il a commencé à chanter la chanson de Roland, et à ce moment-là, ils se sont tous lancés à l'attaque. C'est magnifique. Voilà. Seulement, l'ennui, c'est que Guillaume de Malmesbury écrit dans les premières années du XIIe siècle, donc après le Roland d'Oxford. Et alors, c'est vrai, son témoignage n'est donc pas absolument fiable. Et puis, mais d'autre part, nous avons des témoignages, alors toujours des témoignages indirects, toujours des témoignages d'interprétation ambiguë, qui laissent supposer, à date ancienne, une activité poétique en langue vulgaire. Là, je dis simplement en langue vulgaire, parce que nous allons voir que quelle langue vulgaire et qui acquête les pouces, sur des événements guerriers. À la fin du IXe siècle, un auteur connu sous le nom de Moine de Saint-Gall fait allusion à des récits de vieux soldats. Vieux soldats, les vétérans rentrés de guerre racontent et on écoute leurs récits. Alors, est-ce que ces récits ont une forme poétique? On ne sait pas trop. Voilà. Le Poeta Saxo mentionne des panégyriques de grands personnages en langue vulgaire. Donc, ces panégyriques rappellent forcément leurs exploits. Voilà. En langue vulgaire, mais c'est le Poeta Saxo. La langue vulgaire, c'est la langue vulgaire germanique. Voilà. Alors, on peut regarder les épopées latines. De l'époque carolingienne, où il y en a même à l'époque mérovingienne, mais ces épopées font appel à des souvenirs virgiliens, beaucoup plus qu'elles n'annoncent, au moins formellement, les chansons de gestes. Mais on a des textes bizarres, par exemple un fragment poétique en latin dit fragment de La Haye, qui date entre 980 et 1030, donc un siècle avant la chanson de Roland, et où figurent des noms qui annoncent ceux de futurs personnages épiques français. On peut noter un poème latin très connu et d'ailleurs très, très intéressant, le Valtarius, du 9e ou du 10e siècle, qui offre des rapprochements. Alors là, très nette avec la chanson des Nibelungen allemande qui est plus tardive. Et surtout pour ce qui nous occupe, il y a un texte connu sous le nom de Nota Emilianense, d'après le nom du monastère espagnol où on l'a trouvé, un texte qui a été copié vers 1065-1070, donc plusieurs décennies, 30 ou 40 ans, avant la chanson de Roland d'Oxford, qui mentionne Roland lui-même, qui mentionne Olivier, qui mentionne l'évêque Turpin, qui mentionne Augier, qui mentionne Wilhelmus, Alcorbitunas. Et c'est Alcorbitunas, c'est Oné Courbe. Et c'est, ça montre que c'était Guillaume au nez courbe, donc au nez aquilin, au nez crochu, avant d'être Guillaume au nez court, Guillaume au court-nez, Guillaume d'Orange, dont le nez a été ratiboisé par un adversaire, un sarrasin, alors qu'il défendait Rome. Cette Tota Emilianense raconte un peu la chanson de Roland. On dit en ce temps-là, Charlemagne est allé en Espagne et il avait 12 neptis, dans le latin époque, donc népotes, donc 12 neveux ou petits-fils, ça peut avoir les deux sens, mais, et alors on nomme ces personnages et ça correspond aux 12 pères. Cette note témoigne de l'existence d'une élaboration littéraire, poétique, puisqu'il y a des personnages totalement inventés là-dedans. Et puis, il y a alors un phénomène qui a beaucoup frappé, c'est que pendant tout le XIe siècle, et sur un espace géographique très vaste, à Marseille, dans le Limousin, en Auvergne, enfin, dans la France actuelle entière, dans des familles nobles, quand il y a deux fils, eh bien, on les appelle Olivier et Roland. Quand même pas un hasard. Ce qu'il y a, c'est qu'on les appelle Olivier et Roland, et pas Roland et Olivier. Pour nous, l'aîné devrait s'appeler Roland, et puis quand il en arrive un autre, on dit, tiens, on a déjà un Roland, on va appeler l'autre Olivier. Non, c'est toujours Olivier l'aîné. Ça, c'est un mystère. On va voir là l'hypothèse astucieuse, mais vraiment tirée par les cheveux, pas les miens, que de Bédier. Alors, ça, dans un moment. Et alors, ce que je dis pour la chanson de Roland, je vous disais, on peut faire la même démonstration pour quantité de chansons de gestes et de héros épiques. Par exemple, ce personnage de Guillaume d'Orange, hein, Guillaume au Cournet, son origine historique ou son père historique, c'est un cousin de Charlemagne connu sous le nom de Guillaume Fierbras, qui était très vigoureux, qui était un comte de Toulouse, qui a passé sa vie, donc comme il était à Toulouse, à se battre contre les Sarrasins, qui remontaient presque jusque-là, qui leur a repris Barcelone et qui avait été vaincu par les Sarrasins sur l'Orbieu, là, quelque part dans les Corbières, et qui a fini par se faire moine, comme on s'en souvenait beaucoup à l'époque, à Anian. Et de là, il est allé fonder le monastère de Gélone, qui prendra en son honneur le nom de Saint-Guillaume-le-Désert. D'ailleurs, dans le cycle épique de Guillaume d'Orange, à la fin, Guillaume d'Orange se fait moine. Il y a une chanson de geste qui s'appelle « Le moniage Guillaume », n'est-ce pas ? Il devient moine, mais il est encore assez vif. Quand il va vendre des poissons ou acheter des poissons, il assomme et il tue des brigands à coups de poing, et on le fait sortir. Paris étant menacé par le géant Isoré, on le rappelle, et il remonte de Saint-Guillaume-le-Désert, enfin, de Gélone jusqu'à Paris, pour tuer le géant Isoré, n'est-ce pas, dont on a encore la trace, puisque là où la bataille a eu lieu et là où a été enterré le géant Isoré, il y a une rue qui s'appelle encore aujourd'hui la rue de la tombe Issoire, la rue de la tombe d'Isoré. Ça, c'est un détail, mais il y a des rapprochements entre Guillaume d'Orange et Guillaume Fierbras. Le comte de Paris, Girardus, né vers 800, mort en 877, qui a été toute sa vie un partisan. C'était donc le règne de Louis le Pieux, puis des enfants de Louis le Pieux, et c'était un partisan de Lothaire, l'aîné, qui avait hérité de l'Empire. Et donc un adversaire de Charles le Chauve, ce qui était ennuyeux puisqu'il était comte de Paris. Et il a été destitué du comté de Paris par Charles le Chauve, et Lothaire l'a fait comte de Lyon et de Vienne. Il avait de grands domaines en Bourgogne, il a été toute sa vie soutenu fidèlement par sa fidèle épouse Berthe, avec laquelle il a fondé les monastères de Vézelay et de Potières, et plus que septuagénaire, il a défendu avec sa femme Vienne contre son adversaire de toujours, Charles le Chauve. Eh bien, ce Girardus, on le retrouve épars dans divers héros de chansons de geste, dans un personnage qui nous apparaît toujours que comme un vieux comparse, mais parce qu'on a perdu la chanson qu'il concernait, Girard de Frette. On le retrouve chez Girard de Vienne, dont je reparlerai à propos de l'auteur de la chanson Bertrand de Bar-sur-Aube. Girard de Vienne défend Vienne, non pas contre Charles Chauve, mais contre Charlemagne. Et on le retrouve encore plus précisément chez Girard de Roussillon, le Girard de Roussillon, son adversaire supposé est Charles Martel, mais Charles Martel est roi, ce qu'il n'a jamais été, etc. Mais Girard de Roussillon, dont la femme s'appelle Berthe dans la chanson, et qui, dans la chanson, est en Bourgogne et est le fondateur de Vézelay et de Potières. Et et Girard de Vienne, donc Girard de Vienne, c'est un des fils de Garin de Montglane, l'oncle d'Emery de Narbonne d'une part, d'autre part d'Olivier de la Bellaude, donc nous reparlerons de la chanson éponyme de Bertrand de Bar-sur-Aube qui se termine par le fameux combat de Roland, partisan de Charlemagne et d'Olivier qui soutient son oncle dans une île du Rhône, et par leur réconciliation scellée par les fiançailles de Roland et de la Bellaude. Et maintenant, buvons, car l'affaire était chaude. C'est ainsi que Roland épousa la Bellaude. C'est donc la légende des siècles. Et c'était à l'époque de la légende des siècles, un des épisodes les plus connus encore de ces chansons de geste médiévales. Alors, comment l'histoire est-elle devenue poème? Comment la mémoire historique s'est-elle déformée? Comment les poèmes ont-ils pris corps? À qui rapporter ce changement? Qui est le poète? Et qui est ce nom? Alors, j'ai été beaucoup trop long. Nous verrons cela la prochaine fois. Et surtout, je rejoindrai mon vrai sujet, j'espère, la prochaine fois. Oui, la prochaine fois. Et puis, surtout, les fois suivantes, avec les exemples, la façon dont les poètes se nomment, ou la façon dont on fait allusion à eux, le fameux cas de Turold à la fin de la chanson de Roland, le cas de Jean Baudel dans la chanson des scènes, le cas de Bertrand de Bar-sur-Aube avec Girard de Vienne, la façon dont il est cité dans Don de Nanteuil et Beuve de Antone. J'annonce ça pour ça, pour me faire pardonner de m'être un peu égaré cette fois-ci, mais enfin, ce qui est fait est fait. Et donc, je vous remercie et dans un instant, nous écoutons Federico Saviotti au séminaire.